Réplique, y a-t-il un danger réactionnaire ? Avec Marc Lila et Philippe Reynaud. Certains éditorialistes et nombre d'universitaires, les réacs sont aujourd'hui omniprésents sur la scène intellectuelle. On n'entend que, disent-ils. Mais à l'instar de populistes, le mot de réactionnaire n'est jamais vraiment défini. Rarement revendiqué par ses titulaires, il est utilisé comme un reproche, voire comme une invective. C'est donc un travail de définition que j'ai invité aujourd'hui le philosophe français Philippe Reynaud et l'historien des idées américain Marc Lila. Et puisque vous venez de publier « L'esprit de réaction » chez Desclés de Bonvers, à vous l'honneur, Marc Lila. Qu'est-ce donc qu'un réactionnaire ? Et question subsidiaire, qui en France, aujourd'hui, mérite cette appellation ? Marc Lila.
Oui, vous avez raison qu'en fait, on parle beaucoup des réactionnaires en ce moment, mais on mélange tout. La droite, les conservateurs, les réactionnaires. Et je crois que c'est le moment vraiment de distinguer deux sortes de mentalités ou imaginaires politiques à droite. Le conservateur d'un côté et le réactionnaire de l'autre. Le conservateur est dans un débat permanent avec des libéraux, des socialistes, des réformateurs. Et le débat tourne autour de la nature humaine, la nature de la société et la relation entre la société et l'individu. Donc, c'est un débat où la question de l'histoire, le cours d'histoire n'entre pas. Par contre, le réactionnaire est un jument du révolutionnaire. Et entre les deux, la querelle tourne autour de comment expliquer comment nous sommes arrivés là. Et donc, tous les deux sont pris par, je dirais, des mytho-histoires. Ils veulent tous les deux remonter à Adam, pour ainsi dire, pour expliquer notre présent. Et tous les deux, à mon avis, se perdent dans le mythe de l'histoire. C'est très important pour le réactionnaire, par exemple, de définir la modernité. Et quand la modernité a commencé, c'était avec Machiavel, c'était avec Hobbes, c'était avec le christianisme, c'était avec les nominalistes médiévales, ou même ça a commencé il y a 6000 ans dans le c'était ça l'idée de, par exemple, Jules Evola, que le réactionnaire italien, que la chute a commencé il y a 6000 ans avec le début du quatrième âge cosmique des hindous.
Oui, mais enfin, ça, c'est pas quand même une thèse très répandue aujourd'hui. Et tout le monde s'accorde à considérer que les temps modernes commencent au XVIIe siècle avec Descartes et Bacon et le projet qu'ils assignent à l'homme, c'est-à-dire l'idée d'une maîtrise et possession progressive de la nature pour améliorer le sort humain. Et ça, que l'on soit réactionnaire, conservateur ou progressiste, je veux dire, l'accord se fait sur cette idée que nous sommes pris dans un mouvement, dans un processus qui est celui des temps modernes.
Je ne suis pas d'accord.
Ah bon ?
En fait, c'est très répandu depuis la Révolution française en Europe de présumer qu'il y a une histoire cohérente avec un début, avec les conséquences de cet début. Donc le jeu est toujours de trouver la rupture dans l'histoire quand tout a bousculé, interpréter le passé comme la préparation de cette rupture, interpréter le présent comme le résultat de cette rupture, et puis agir pour échapper à notre époque. Mais moi, un bon libéral qui a lu Raymond Aron sur l'histoire, Isaiah Berlin, il faut toujours se méfier des mythes comme ça et reconnaître l'imprévisibilité de l'histoire, le fait qu'à chaque époque, il y a des courants opposés et que dans le temps, nous tâtonnons dans le temps et pour essayer de trouver notre place. Mais dès le moment que vous acceptez ce récit, vous tombez amoureux de ce récit. C'est comme si vous devenez un idolâtre de ce récit où tout s'explique. Ça a commencé avec Bacon et tout ce qui se passe après peut être expliqué en relation avec cette brèche.
Bien, alors, on n'en a pas encore parlé des réactionnaires aujourd'hui, mais êtes-vous d'accord avec cette définition et le panorama offert par Marc Lila, Philippe Reynaud ?
Je suis d'accord avec beaucoup de choses, et le point le plus important, me semble-t-il, c'est de bien distinguer les conservateurs et les réactionnaires. C'est d'autant plus important qu'en France, c'est une distinction qui ne va pas de soi, non seulement chez les gens qui dénoncent le progrès des réactionnaires, les nouveaux réactionnaires, etc., etc., mais chez un certain nombre de Français qui se présentent comme des conservateurs et qui eux-mêmes refusent cette distinction. Il y a 2 ans, je crois, est sorti un gros dictionnaire du conservatisme dont, me semble-t-il, la majorité des contributeurs assument et défendent, d'ailleurs certains explicitement, l'idée que la distinction entre conservateurs et réactionnaires est futile. Un de mes collègues, d'ailleurs tout à fait éminent par ailleurs, considère que les fondateurs du conservatisme, c'est Joseph de Maistre, Bonald, Charles Maurras, qu'il met avec Burke. Bon, ça je crois que c'est à mon sens la confusion dont il faut partir et qui a bien un rapport avec la manière dont on perçoit l'histoire ou dont on construit la mythologie historique. Un des points qui me paraît très profond, parmi les nombreux points profonds du livre de Marc, c'est cette idée que le réactionnaire a un mythe de l'apocalypse, là où le progressiste a un mythe du progrès. Je ne suis pas sûr que le rapport à l'histoire des conservateurs soit exactement celui que vous avez dit.
Revenons à l'origine. Le mot de réactionnaire a surgi à la fin de la Révolution. Et justement, on a créé même le suffixe à l'image de révolutionnaire. Il y avait la réaction. Et depuis, ce terme, comme l'a dit Jean Starobinski dans un livre très éclairant, Action et réaction, ce terme désigne l'ensemble des hommes qui tirent profit de l'inégalité sociale, et ce terme désigne aussi les tendances d'opinion qui visent à rétablir les prérogatives féodales ou l'influence temporelle d'un clergé au service de l'absolutisme. À l'origine, c'est ça, être réactionnaire. Le terme a aussi été utilisé par Marx dans le manifeste du Parti communiste, ceux qui veulent inverser la roue de l'histoire. Et c'est pour ça que je m'interroge. En ce sens, qui est quand même le sens originel, peut-on dire qu'il y ait aujourd'hui des réactionnaires ? Et j'ajoute que pour penser qu'il y ait des réactionnaires, il faut quand même s'inscrire soi-même dans une vision de l'histoire, être moderne et donc proposer comme idéal, non pas un principe intemporel, mais le temps. Et ces changements, le temps qui nous amène vers l'égalité, la liberté ou l'égaliberté, pour reprendre le terme forgé par Étienne Balibar. Bref, pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui en France des intellectuels que l'on puisse désigner sous le nom de réactionnaire, Marc Lila?
Je ne suis pas instituteur français, je donne pas de notes. Oui. Mais on peut trouver des exemples de la pensée, de la mentalité. Parce que je veux parler d'une mentalité, pas seulement des positions politiques, mais la manière dans laquelle le réactionnaire s'approche aux questions politiques. Donc, un bon exemple toujours, c'est Éric Zemmour. Dans le livre, j'ai fait une petite liste des catastrophes que Zemmour pense sont éculées depuis le tournant. Quel tournant? Le tournant moderne, ou surtout dans le XXe siècle. Il mentionne le contrôle des naissances, abandon de l'étalon or, censure de langage, marché commun, divorce par consentement mutuel, post-structuralisme, dénationalisation des grandes industries, avortement, euro, communautarisme musulman et juif, étude du genre, capitulation devant le pouvoir américain au sein de l'OTAN, devant le pouvoir allemand en Europe, devant le pouvoir musulman à l'école, interdiction de fumer dans les restaurants, suspension du service militaire, antiracisme agressif et bien sûr, on ne peut plus manger à Paris. Donc, le réactionnaire est quelqu'un qui, quand il avale l'expérience présente, il le transforme toujours dans un exemple pour renforcer son récit de l'histoire. Et ce qui est difficile pour la mentalité réactionnaire, c'est d'être surpris par, étonné par l'expérience. Parce que l'expérience, notre expérience dans le temps, est un peu aléatoire. Et le problème fondamental, c'est qu'en démocratie, la vertu suprême, à mon avis, c'est la lucidité. Il faut être lucide, il faut voir ce qu'on voit. Mais le réactionnaire, comme le révolutionnaire d'ailleurs, regarde l'expérience présente à travers cette brouillard du mythe de l'histoire.
Fipreno.
Oui, la question, c'est savoir
qui serait réactionnaire par opposition au conservateur aujourd'hui en France, ou êtes-vous d'accord avec l'exemple donné à l'instant par Marc Hillard?
Je crois qu'il est, il n'est pas totalement invraisemblable qu'Éric Zemmour soit réactionnaire. Ça me paraît plausible. Simplement, réactionnaire, c'est pas une maladie ni une insulte. C'est une caractérisation politique. Alors, je repartirai de ce que vous disiez, si vous voulez bien. Vous parliez des analyses de Starobinsky. Je suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont vous présentez les choses, parce que ça ramène la réaction à un certain nombre de positions à l'époque de la Révolution française. On avait l'impression, en vous écoutant, que si on n'est pas partisan du retour de la monarchie et de la France toute catholique, on n'est pas réactionnaire.
La réaction, c'est quand même la nostalgie du principe hiérarchique face au principe d'égalité, tel qu'elle pouvait s'incarner
non,
dans l'ancien régime.
C'est justement
au départ,
non,
c'est ça la
non,
réaction.
Au départ, non, je ne pense pas qu'au départ, ça soit ça. Un des premiers à utiliser l'expression de réaction, c'est Benjamin Constant dans la brochure des réactions politiques, où ce qu'il décrit comme réactionnaire, c'est une métaphore de mécanique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui suit l'action et qui est une tentative de revenir en arrière, dont il dit simplement que c'est condamné à l'échec, parce que on ne peut pas défaire facilement ce qui a été fait, et d'autre part, dit-il, c'est une argumentation très très subtile, d'ailleurs ce qu'il dit, c'est que les gens qui voudraient ramener simplement la monarchie sous des formes modérées serait petit à petit conduit à vouloir faire une révolution à l'envers. C'est ça qu'il décrit. Mais, alors, à l'époque de la Révolution française, la Révolution française est révolutionnaire avec son programme révolutionnaire, la réaction s'oppose au programme de la Révolution française. Mais nous sommes dans une civilisation où la révolution n'a pas cessé. La dynamique de l'égalité ne s'est pas arrêtée. Et le réactionnaire, c'est celui qui a une certaine position à l'égard de la dynamique de l'égalité. Alors, il a pu se résigner à un certain nombre de choses qui se sont produites depuis la Révolution, ça l'empêche pas d'être réactionnaire.
Bon, alors, je sais pas si ce terme vaut, mais je vous suivrai. En effet, simplement, je pense, moi, que l'emploi frénétique de ce mot de réactionnaire pour désigner celui qui s'oppose ou qui s'inquiète devant la dynamique de l'égalité révèle l'équivoque même de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie est envisagée simultanément en termes politiques et en termes historiques. En termes politiques, la démocratie, c'est le régime de la délibération, le régime le plus bavard de tous, comme le dit Hannah Arendt dans La Condition de l'homme moderne. En termes historiques, la démocratie, c'est, selon Tocqueville, l'égalisation des conditions. Voilà. On va toujours plus loin dans l'égalité. Et si précisément aujourd'hui, vous trouvez à redire à la procréation médicalement assistée pour toutes et tous, vous semblez ne pas aller dans ce sens. Et donc, vous êtes immédiatement désigné comme réactionnaire. Mais c'est un coup très dur porté à la démocratie au premier sens. Parce que comment voulez-vous déployer une véritable conversation civique si l'un des deux points de vue est immédiatement discrédité en tant qu'antidémocratique ? Et on l'a vu au moment du mariage pour tous, c'était toujours la démocratie contre ses ennemis. Et cela ne va pas cesser, et c'est la raison pour laquelle il y a autant de listes noires dans les journaux depuis l'apparition du livre de Daniel Lindeberg, Le rappel à l'ordre, puisque ce livre, en effet, dressait une liste des penseurs et des écrivains réactionnaires, ceux qui n'allaient pas dans le sens de cette égalisation des conditions, qui critiquaient la culture de masse au nom d'une conception hiérarchique de la culture, qui s'inquiétaient de l'immigration et de la force de l'islamisme, puisque toutes les cultures sont égales et puisque il n'y a aucune raison d'affirmer la primauté de la culture d'accueil sur les cultures des nouveaux arrivants. Donc, au nom de l'égalité, effectivement, on désigne comme réactionnaire tous ceux qui mettent en cause la dynamique dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a de nombreuses raisons de s'inquiéter devant l'abus de ce terme au nom précisément de la conversation civique, du débat démocratique. Marc Lilla.
Je vois le même phénomène en France, mais aussi aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai fait cet exercice de distinguer le conservateur de réactionnaire pour être un peu pour être impartial envers le réactionnaire et pour montrer que c'est très facile de mélanger les réactionnaires et les conservateurs parce que ils prennent parfois les mêmes positions politiques, mais leur manière de penser est complètement différente. C'est ça que je veux insister, sur lequel je veux insister. Donc, le mot réactionnaire, j'aimerais l'utiliser pas dans un sens polémique du tout, mais pour distinguer les esprits dans la politique.
Vous ne le sentez... Bon, un mot sur Éric Zemmour. Gérard Noiriel, l'historien, vient de publier un livre sur et contre Éric Zemmour, une véritable charge. Et dans ce livre, il compare Zemmour à Drummond. Hein? Zemmour, c'est le Drummond du 21e siècle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que il est interrogé... D'abord, première chose, il est interrogé par un journaliste du Monde, et il nous dit que Zemmour légitime une forme de délinquance de la pensée. Le mot délinquance est inscrit en très gras dans le titre du Monde. Mais s'il légitime une délinquance de la pensée, ça veut bien dire qu'il y a une police de la pensée aujourd'hui, et qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, qu'il ne faut pas dire. Et forcément, derrière Zemmour, il y en a d'autres. Est-ce qu'on souhaite effectivement que une police de la pensée s'instaure, non pas évidemment de la part de l'État, mais de la part d'un cercle médiatico-politico-intellectuel ? Première question. Deuxième question, Zemmour, et Zemmour que je discute énormément, comme vous, et dès le suicide français, j'ai été heurté par la réhabilitation partielle qu'il fait du régime de Vichy. Je l'ai écrit et je l'ai redit très fort au moment de l'apparition du destin français. Mais une question qui lui est posée par Lopes, y a-t-il un trait commun entre l'antisémitisme de Drummond et l'islamophobie de Zemmour ? Oui, dit en substance Gérard Noiriel, sauf que, il y a une chose qui n'est pas dite, c'est effectivement, pour faire cette analogie, il faut oublier l'existence et le développement en Europe d'un antisémitisme islamiste. Voilà. Ça, on n'en parle pas. Et vous dites, il faut voir ce qu'on voit. Mais il est très difficile de voir ce qu'on voit à l'époque du politiquement correct, dont vous savez combien il règne aux États-Unis. Et quand on voit ce qu'on voit, on est immédiatement traité de réactionnaire aujourd'hui. Enfin, c'est ça la réalité. Vous êtes réactionnaire quand vous dites, il existe des formes, justement, de haine, de phobie, qui ne sont pas répertoriées par une certaine vision progressiste de l'histoire. C'est un événement, comme vous le dites, Marc Lilla, aléatoire, qui prend à contre-pied une philosophie de l'histoire dominante et donc qui suscite la panique et qui est très mal vécue par un certain nombre de gens, et ceci stigmatise les messagers de la mauvaise nouvelle en les traitant de réactionnaires. Marc Lilla.
Oui, le problème commence après que qu'on voit ce qu'on voit. Il y a le moment où il faut expliquer ce qu'on voit. Et j'ai pensé ce matin à des lignes, aux lignes dans le Misanthrope de Molière, où Philintre parle avec Alceste. Il lui dit « Mon Dieu, des mœurs du temps mettons-nous moins en peine et faisons un peu de grâce à la nature humaine. » Et le réactionnaire, c'est justement ça. C'est quelqu'un qui met toujours les mœurs du temps en peine au lieu de penser qu'il y a des problèmes qui existent toujours dans toutes les sociétés et qui reviennent de temps en temps. Parce que le réactionnaire est attaché à son analyse de la modernité. Il faut que chaque événement entre dans ce récit. Et c'est ça le problème. Donc, si vous voulez rester conservateur, faire une critique conservateur des changements dans la société, c'est une chose. Mais pour se plaindre de la modernité, chaque fois que quelque chose se passe, à ce moment-là, vous entrez dans le mytho-histoire et vous n'êtes plus lucide.
Très bien, c'est clair, je comprends. Philippe Reynaud.
Oui, moi je crois que ce qu'il faudrait apprendre à faire, me semble-t-il, si on veut restaurer la conversation civique dans des conditions décentes, c'est à dédramatiser un certain nombre de mots.
Dédramatiser,
c'est-à-dire que moi je crois qu'il y a deux choses détestables dans la situation que vous décrivez. La première, c'est qu'effectivement, n'importe quelle réticence devant quelque chose qui est présenté comme évidemment lié à la modernité démocratique est immédiatement dénoncé comme réactionnaire, etc. Et à terme, on ne peut plus parler de rien. Bon, ça c'est une chose. Mais la deuxième, qui me paraît tout aussi pernicieuse, c'est le fait qu'on considère que la position réactionnaire, confondue ou non avec la position conservatrice, doit être mise au banc de la société et qu'elle est en elle-même absolument illégitime. Vous vous souvenez que dans Les Particules élémentaires de Houellebecq, il y a un passage très amusant où le héros rencontre Philippe Solers, qui lui dit « Ah ben vous êtes réactionnaire, mais vous savez, c'est très bien d'être réactionnaire. Au 19e siècle, tout le monde était réactionnaire, Flaubert était réactionnaire, etc. » Bon, je pense que c'est une scène tout à fait drôle, parce que je soupçonne que Solers peut très bien penser quelque chose comme ça, mais qu'il le dira jamais. Mais il faudrait qu'on puisse dire ça, c'est-à-dire qu'on puisse, après tout, le livre de Lindenberg dont vous parlez partait d'une idée qui n'était pas entièrement absurde, c'est qu'on voyait renaître, c'est qu'au 19e siècle, on avait la plupart des écrivains étaient hostiles à la démocratie, y compris le grand Flaubert, enfin beaucoup de gens. Stendhal lui-même n'était pas absolument net de ce point de vue-là. Si j'ose dire, on n'en fait pas une maladie. C'est quelque chose qui me paraît étrange, si vous voulez, c'est qu'on ne peut plus parler. Nous vivons aujourd'hui sous un régime de sacralisation du régime démocratique qui fait qu'on n'a pas le droit de le mettre en question. Alors, je trouve qu'il faut distinguer entre deux choses, c'est-à-dire les gens qui appellent à de la subversion du régime démocratique au sens du régime politique, qui sont des violents, etc., et les gens qui discutent la culture de la démocratie. Ça doit quand même être possible. Et d'autre part, après tout, si on prend la démocratie antique, On peut reprocher à Athènes le procès de Socrate, justement, qui n'était pas un démocrate, et on peut apprécier le fait que Aristophane, qui est un fief réactionnaire, est un des grands écrivains athéniens. Donc, reprenons un peu, c'est ça que j'appelle dédramatiser.
D'accord, mais j'ai quand même un problème, Philippe Reynaud. Je cite encore Starobinsky, « Réactionnaire est un mot de partisan et n'a d'usage que polémique et dépréciatif. Il est largement utilisé. Ceux qui l'emploient se font aussitôt connaître comme des ennemis de la réaction, c'est-à-dire en termes positifs, comme des partisans des réformes indispensables ou de la révolution. En tout cas, aujourd'hui, du progrès, de l'égalité et de l'émancipation. Mais j'ai un problème, parce que dans ces listes, alors il y a la liste noire de Lindenberg, et l'Obs vient d'en publier une, il y a deux jours. Et d'ailleurs, vous êtes associé, peut-être malgré vous, à ce grand dossier anti-réac de l'Obs, puisqu'il y a une interview de vous par Xavier Delaporte. Alors peut-être est-ce une manière de, pour la rédaction, une partie de la rédaction, de réagir au numéro précédent où j'avais eu droit à un grand entretien. Mais alors c'est très intéressant.
Oui, parce... vous dites vous-même de réagir.
Exactement.
C'est la réaction, mais alors, c'est ça.
Donc Olivier Roy tresse une liste, il dit non, c'est pas une liste noire, non, il fait pas une liste noire, il fait simplement l'énumération des salauds. Il y a les mêmes, il y a Houellebecq, Gauchet, Manin, Michéa, et quelques nouveaux, Rémi Brague, Eugénie Bastier, Elisabeth Lévy. Mais le problème que j'ai, Philippe Reynaud, c'est que aucun de ces personnages, me semble-t-il, ne reprend à son compte cette étiquette. C'est-à-dire que si j'ai personnellement des arguments contre la dynamique démocratique, c'est pas parce que je pense à un autre régime, ni parce que je regrette un âge d'or, et nous parlerons tout de suite de la nostalgie. Donc, si vous voulez, vous dites, on devrait avoir le droit d'être réactionnaire, on devrait avoir le droit de critiquer certains aspects de la démocratie, mais quel est ce droit dont personne ne veut, sauf ceux qui stigmatisent des gens sous ce nom?
Non, d'abord, j'insiste sur le fait qu'il y a aujourd'hui des gens qui se revendiquent comme réactionnaires. Bon, on a réussi à créer une dissidence de droite de causeurs qui s'appelle l'incorrect. L'incorrect, je pense que Jacques de Guillebon et la plupart des gens qui participent à ça, pas tous, pas Chantal Delsol, mais un certain nombre de gens se présentent comme des réactionnaires. Et parmi les auteurs du dictionnaire du conservatisme que je citais tout à l'heure, mon éminent collègue Philippe Benneton, par exemple, dit qu'il considère que la distinction entre conservateur et réactionnaire est parfaitement futile et que donc être conservateur est... Ne dites pas que personne ne se revendique comme réactionnaire.
Mais pas Gauchet, pas Michéa.
Mais
pas,
non, mais ça, c'est encore une fois, il y a des appellations polémiques qui sont un peu imbéciles. Ça, je vous l'accorde volontiers. Mais est-ce que c'est si dramatique que ça? Ce qui est dramatique, c'est qu'on ne puisse pas. C'est quand on vous dit que vous ne pouvez pas avancer tel ou tel argument parce que c'est réactionnaire. Alors là, il faut pouvoir dire. C'est dans la rhétorique politique, on commence à avoir l'habitude de dire c'est pas parce que Jean-Marie Le Pen dit qu'il est midi quand il est midi qu'il faut dire qu'il est 6 heures du soir, etc. Ben, on a un débat intellectuel, si vous voulez, qui est souvent du niveau de mauvaise controverse politique. C'est ça que ça veut dire.
Bon. C'est un débat intellectuel, si vous voulez, durci précisément par cette opposition entre ceux qui sont des vrais vivants, puisqu'ils avancent vers le mieux, et puis ceux qui sont de purs survivants d'un ordre révolu et dont la présence sur Terre est quasiment un scandale. Mais Marc Lilla, vous dites dans votre livre, me semble-t-il, que la Stimmung, la disposition d'âme du réactionnaire, c'est la nostalgie. Et j'aimerais en savoir davantage.
Oui, vous avez défendu la nostalgie dans quelques articles, en fait.
Oui.
J'ai vu. Vous savez, il n'y a pas longtemps... Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un effort de comprendre et critiquer la mentalité révolutionnaire. Ça remonte au XIXe siècle avec Dostoïevski et puis en XXe siècle, Conrad, Arthur Koestler, Orwell, Jorge Semprún. Et ils ont vu dans le révolutionnaire pas seulement des idées, mais une mentalité. Et quelques-uns ont fait une comparaison, par exemple, avec le messianisme chrétien ou avec la gnose, par exemple, Isaiah Berlin ou Jacob Talmon en Israël ou Leszek Kolakowski. Ce que je veux faire, c'est pas de stigmatiser les réactionnaires, pas du tout. Nous vivons dans l'atmosphère que vous avez bien décrit. Non, mais c'est de faire la critique de la pensée et la mentalité réactionnaire. Et personne ne l'a fait. C'est ça qui est extraordinaire. Je suis allé dans la bibliothèque à Columbia quand j'avais l'idée d'écrire cet article et j'ai cherché des livres sur le réactionnaire comme personnalité, etc. Rien du tout, rien du tout. Parce que la réaction, comme disait très 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 bien Sakhrebinski, était au début toujours un stigma, parce que le réactionnaire était contre le courant de l'histoire. Mais il nous faut une critique de la psychologie réactionnaire qui est d'ailleurs très proche à la psychologie révolutionnaire, parce que il partage tous les deux un mythe d'histoire où l'histoire est coupée en deux par l'événement. C'est en fait le modèle chrétien de l'histoire. Pour le révolutionnaire, cet événement est déjà venu ou viendra avec nos efforts. Mais pour le réactionnaire, c'est l'apocalypse. Il vit après l'apocalypse. Et donc, il n'a que deux options. Il peut essayer de reconstruire le passé, ça c'est la nostalgie, ou, si ce n'est pas possible, il veut sauter le présent pour créer un monde ou un régime politique inspiré par le passé, mais beaucoup plus musclé. Et c'est cette mentalité, cet historicisme que je critique dans tous les deux.
Ah oui, bien sûr, mais quand même, je m'arrête sur la question de la nostalgie et d'une détresse qu'on peut éprouver à voir l'ensauvagement et l'enlaidissement du monde, parce que il est vrai aujourd'hui que la nostalgie est très mal vue, qu'on nous somme, en quelque sorte, on nous met en demeure d'aimer le présent, un présent qu'il ne nous est pas permis de quitter par l'imagination ni par la mémoire. Je voudrais vous citer Thomas Mann. Thomas Mann, dans sa période où il s'était réconcilié avec l'idée républicaine, il a publié un texte en 1931 sous ce très beau titre, « Régénération de la bienséance ». Admirer le passé n'est, me semble-t-il, pas forcément contraire à la vie. Et c'est absolument préférable à l'outrecuidance. Aucune époque n'a jamais eu motif de se sentir tout à fait bien dans sa peau, ni de voir la paille dans l'œil d'autrui, et non la poutre dans le sien, la nôtre moins encore. Donc voilà, ça c'est une forme de nostalgie, mais qui n'est pas la volonté d'en revenir à un âge d'or, et que personnellement, j'ai du mal à qualifier de réactionnaire. Donc je pense que la nostalgie devrait avoir droit de cité aujourd'hui sans mériter pour autant cette appellation. Peut-être des gens se revendiquent-ils comme réactionnaires de nos jours, mais c'est une appellation fourre-tout qui disqualifie, délégitime un certain nombre de sentiments dont la légitimité, pour moi, ne devrait faire aucun doute.
Oui, nous avons besoin du passé, Marquina, pour nous libérer de la pensée unique de notre temps, ça c'est clair. Mais il faut au même temps reconnaître que notre image du passé est filtrée par notre expérience maintenant, et que nous avons des mémoires assez faibles. Mais la nostalgie devient un problème quand on devient, comme je disais tout à l'heure, un idolâtre du passé. Nietzsche a dit dans son essai sur l'histoire, il a parlé de l'esprit antiquaire. Il a écrit dans dans un esprit antiquaire, c'est plutôt les meubles qui possèdent le propriétaire.
C'est une belle
expression. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus lucide. Et quand on rencontre parfois des réactionnaires qui sont des idolâtres du passé, c'est comme ils disent tout le temps, ce sont des absents qui ont toujours raison.
C'est... Alors, Philippe Reynaud.
Oui, moi je suis tout à fait Marc sur ce qui ce qu'il vient de dire, et il me semble, si vous voulez, que la tâche qui devrait être la nôtre, c'est d'introduire un peu de, comme dans les pubs du chocolat, là, un peu de finesse dans ce monde de brut, c'est-à-dire de d'apprendre à sortir de cette rhétorique imbécile que vous justifiez, que vous dénoncez à juste titre. Mais je pense que si on veut en sortir, il faut la traiter sans lui attacher trop d'importance, et avec un, je n'aime pas le mépris, qui est une mauvaise passion, mais disons un peu de dédain quand même. Il faut pas y faire trop attention, à mon avis. Il faut simplement patiemment, quand on vous dit que si vous avez de la nostalgie, vous êtes réactionnaire, etc., laissez entendre que vous trouvez ça, comme diraient les jeunes, débile. Je crois que il faut apprendre à parler calmement et sans s'énerver contre ces choses-là. À partir de là, on pourra peut-être faire admettre que dans la conversation civique, on a le droit d'être nostalgique de telle ou telle chose, de trouver que même si le monde ne va pas nécessairement à sa perte, il y a des choses qui étaient mieux avant, etc., etc. Nous sommes aujourd'hui devant un phénomène que je ne sais pas qui a appelé ça un ethnocentrisme du présent, qui est particulièrement intolérant. Ben, il faut apprendre à faire valoir les droits de la critique contre cet égocentrisme ou cet ethnocentrisme démocratique. Et il faut défendre la liberté de penser. Alors, j'ajouterais par ailleurs que, quand vous dites que le... si je peux me permettre, je crois que vous lisez trop Le Monde et vous écoutez peut-être trop France Info, je ne sais quel...
Je lis trop Le Monde, je lis trop Libération, je lis trop L'Obs, j'écoute trop France Inter. Il est vrai que si je me déconnectais et si, selon mon souhait, j'allais vivre à la campagne...
Non, mais écoutez, je vais vous prendre un exemple d'un média qui n'a rien de particulièrement sophistiqué. Prenez dans les chaînes d'information continue, prenez une chaîne comme LCI, vous avez des réactionnaires tout le temps. Qui sont tout le temps là et qui bavardent d'ailleurs assez calmement avec des progressistes, alors de temps en temps, ils se traitent de noms d'oiseaux, de progressistes, de droits de l'homiste et de réactionnaires, mais enfin, c'est pas totalement absent quand même. Bon, moi je crois, si vous voulez, qu'il faut... il faut nous libérer de l'emprise du discours progressiste lorsque celui-ci est niveleur, stupide, etc. Il faut, et je ne cache pas qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, parce que sur tous les sujets, nous avons, par exemple, sur l'école, je pense qu'il faut il faut apprendre calmement à dire que les thèses de Monsieur Dubé sont aberrantes, enfin c'est des choses comme ça.
J'essaye de dire les choses calmement, même si il est très difficile de rester serein face aux insultes aux listes noires, mais c'est vous-même, Philippe Reynaud, qui me rappeliez l'époque des années 80-90, quand s'effondrait l'idée totalitaire et que tout le monde parlait à tout le monde, notamment dans la vie intellectuelle, et vous avez fait référence, et nous en avons déjà parlé ici, je crois, à la première édition des Rencontres de Pétrarque, qui avait été créé par Jean-Marie Borsex, où les gens de commentaires, les gens d'esprit, les gens du débat discutaient ensemble, sans jamais se fâcher, malgré les divergences. Et d'ailleurs, c'est là que nous nous sommes connus, que j'ai connu Pierre Manant aussi. Donc c'est quand même une époque de conversation intense à laquelle succède une époque de violence, d'anathèmes, d'invectives et d'excommunication, et on est en droit de le regretter, tout en essayant, en effet, de garder son calme. Mais alors, je vais vous demander, justement, Marc Lida, vous parlez d'une histoire antiquaire, de cette façon de voir où les absents ont toujours raison. Alors je vais vous citer quelques propos de Philippe Roth dans « Pourquoi écrire ?», le dernier livre qu'il a publié, et c'est des entretiens qu'il a eus avec différents journaux. Il dit ceci par exemple, « Je doute que la capacité d'appréciation de l'esthétique littéraire ait beaucoup d'avenir dans ce pays. » Il part des États-Unis. « Dans deux décennies, le nombre de lecteurs amateurs capables de prendre plaisir à lire avec discernement des œuvres littéraires sera égal au nombre de ceux qui lisent aujourd'hui de la poésie écrite en latin. » Et je ne parle pas ici de ceux qui en lisaient à l'époque de la Renaissance. Et puis, à un autre moment, dans un autre entretien, il parle du monde. Il dit que le monde est devenu un grand parc d'attractions complètement idiote. Alors, direz-vous que cette vision, ce pessimisme culturel, puisque c'est une expression que vous utilisez pour désigner les réactionnaires, fait précisément de Philippe Roth un homme de la réaction?
Non, je partage beaucoup plus que je vieillis, je partage de plus en plus cette vision un peu sombre de notre présent. Je crains l'avenir. Non, le moment réactionnaire arrive quand on essaie d'expliquer un peu de décadence ou un moment sombre de l'histoire en relation avec ce grand récit. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à idéaliser le passé. C'était Paul Valéry qui a écrit « La Grèce antique est la plus belle invention des temps modernes ». Et c'est toujours nous qui inventons les passés idéaux comme ça. Et Philippe Roth, pour lui aussi, c'était le Newark, New Jersey, qui est la plus belle invention des temps modernes, parce qu'il a inventé, pour ainsi dire, une certaine atmosphère dans le New Jersey, dans les milieux juifs, pour mettre la lumière sur notre présent. Mais il faut toujours se rappeler que c'est une confection.
Alors, je citerai deux autres phrases de Philippe Roth, à la suite desquelles je vous poserai une question. Philippe Reynaud. Alors, dans certains milieux, la misogynie est devenue une manière facile de dénoncer et de stigmatiser les gens, et on utilise avec la même libéralité que les séides du maccartisme utilisaient le mot communiste dans les années 1950, ou que la vieille machine à propagande communiste saupoudrait ses attaques habituelles contre ses ennemis de mots fourre-tout tels que bourgeois et réactionnaire. Et il ajoute ceci, je le dis à l'intention des Nobel, je me demande si en intitulant Portnoy et son complexe l'orgasme sous le règne du capitalisme rapace, je me serais attiré les faveurs de l'Académie suédoise. Sans doute parce qu'il est réactionnaire, il n'a pas eu le prix Nobel, non plus d'ailleurs que Milan Kundera, mais nous verrons le 10 octobre ce qu'il en sera des lauréats 2018 et 2019. Mais c'est très intéressant, parce que effectivement, la propagande communiste qualifier ses ennemis de réactionnaires. Alors, comment expliquez-vous la valeur de ce mot, son emploi, justement, par, je ne dirais pas la propagande démocratique, mais par ceux qui se réclament de la démocratie? Ça peut paraître, à première vue, paradoxal. Philippe Reynaud.
Je crois que la démocratie est un régime qui repose sur une tension permanente, qui est ce que Tocqueville décrit en parlant de la dynamique de l'égalité des conditions, c'est-à-dire qu'elle fait une promesse d'égalité, de mobilité absolue, etc., qui est par définition toujours frustrée. Et qui fait également qu'il y a quelque part dans la mentalité démocratique une dimension révolutionnaire. Et c'est pour ça, je pense, qu'on voit toujours renaître deux critiques radicales de la démocratie. Il y en a une qui repose sur l'idée qu'il y a un mensonge de l'égalité. Il y a une critique de gauche révolutionnaire au sens courant, qui s'est incarnée notamment dans le marxisme et qui consiste à exiger que la promesse soit tenue. Quitte à abolir les formes. Et il y a une promesse, il y a une version réactionnaire, justement, qui est vraiment le cœur de la réaction, qui s'est incarnée notamment dans le fascisme, qui consiste à prendre acte ou à considérer que, décidément, cette promesse est un mensonge et qu'il faut dénoncer le mensonge violemment, quitte à détruire. Alors, dans les deux cas, ce qui est attaqué, ce sont les formes de la démocratie. C'est le caractère formel de la démocratie, parce que c'est un obstacle à l'égalité d'un côté, parce que ça enferme les forces vives de la nation, de la race, etc., de l'autre. Alors, ce que j'ai tendance à penser, c'est que maintenant que le marxisme s'est un peu effacé, il est peut-être pas mort, ça peut recommencer, mais enfin, disons que la lutte de classe n'est plus le moteur de l'histoire. La passion révolutionnaire s'incarne dans les formes apparentes de la démocratie. Donc on a des passions, c'est ça, très exactement ça que décrit Roth, c'est-à-dire l'analogie qu'il fait est parfaitement exacte, mais il n'empêche que les mégères de campus là, comme celles qu'on voit dans le roman La Tâche, là, je ne sais plus le nom de ce personnage, là, vous voyez de qui je parle, sont extrêmement désagréables et produisent de l'oppression. Il n'y a pas d'ailleurs que des mégères, il y a aussi des tyrans, mais ça n'est pas la même chose que la tyrannie communiste pour autant. C'est dans le cadre, c'est le paradoxe, c'est que nous avons aujourd'hui des éléments, disons, d'oppression à l'intérieur de la culture démocratique, et ce qui explique d'ailleurs que les critiques que nous leur faisons, d'une certaine manière, apparaissent comme des critiques de la démocratie, et donc nous font passer pour réactionnaires. Je trouve que la scène politique et idéologique, elle n'est pas inintelligible, mais je conviens volontiers qu'elle est irritante et parfois oppressive.
Alors, j'en terminerai sur une question, parce que il y a une autre promesse qui a été faite, et qui était effectivement, je reprends les termes de Léo Strauss, de rendre l'homme capable de devenir le maître et le possesseur de la nature, et ce faisant, de permettre à tous de partager tous les avantages de la société ou de la vie, et par conséquent de donner une pleine réalité au droit naturel de chacun à préserver son existence dans le confort. Mais l'écologie nous montre, l'envers de cette promesse. Ce progrès est mis en cause parce que la Terre, qui ne devait plus être une vallée de larmes, projet grandiose, aujourd'hui crie grâce. Alors, l'écologie a quelque chose d'apocalyptique, peut-être à juste titre d'ailleurs. Mais justement, dans le cadre de la pensée contemporaine, où situez-vous la sensibilité écologique? Beaucoup d'écologistes se veulent progressistes, ce que je trouve toujours un peu étrange. Mais alors, vous diriez quoi, Marc Leda?
Qu'en fait, il y a deux sortes d'écologie. Vous avez mis le doigt sur le problème. Il y a une écologie conservatrice. Ça peut remonter au 19e siècle parmi les Tories et les conservateurs anglais. Et leur idée fondamentale est la transmission. Que dans la société, il faut transmettre notre langue, il faut transmettre nos valeurs et il faut transmettre le monde, la nature. Mais plus récemment, vous avez tout à fait raison, nous avons vu une écologie réactionnaire. Parce que pour l'écolo réactionnaire, le problème n'est pas l'environnement, le problème c'est nous. Donc, il est inspiré par sa critique de nous, de l'homme moderne, et pas par le souci de la nature. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette réaction écologique est à gauche. qui prouve qu'on peut avoir des réactionnaires à droite et à gauche.
Mais vous êtes d'accord avec cela, Philippe Reynaud, pour terminer ?
Peut-être pas tout à fait, parce que je crois que dans l'écologie révolutionnaire, il y a une sorte de surenchère sur l'idée qu'on va être maître et possesseur de la nature, c'est qu'on va être maître et possesseur de notre nature. Et qu'on va se transformer. Si vous voulez, moi, je trouve que je veux viser personne, mais je me méfie des écologistes qui ont des têtes de cyborg.
Des écologistes
qui ont des têtes de cyborg. Ça me paraît un peu inquiétant. Et je crois qu'on va vers ça. Il y a l'idée d'une super maîtrise, si vous voulez. Et d'ailleurs, qui reprend l'idée de révolution comme ça, d'ailleurs. C'est-à-dire, on va pour une fois en finir avec, avec la facilité.
Bien. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Alors, je terminerai par une citation de mémoire de Benjamin, qui disait que la révolution, ce n'était plus la locomotive du train de l'espèce humaine, mais peut-être la main qui tire le signal d'alarme d'un train fourvoyé dans la mauvaise direction. En tout cas, merci infiniment. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Marc Lila, L'esprit de la réaction. Il est publié aux éditions Des Clés de Brouwer. Et vous avez publié, cette année aussi, Philippe Reynaud, La laïcité, histoire d'une singularité française. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Face à la Russie. Mes invités seront Galia Ackermann et Hubert Védrine. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard, d'Anaïs Isebert, et François Connac, à la technique aujourd'hui, Delphine Baudet, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.